Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous prions pour ta parole. Parce que ta parole est puissante. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous inspire. C'est ta parole qui crée, Seigneur. Qui crée. Ta parole créatrice. Et ce matin encore, alors que nous allons partager cette parole, je prie pour qu'elle illumine les yeux des cœurs. Qu'elle soit une lumière sur le sentier de chacun
ici.
Parce que Seigneur, nous n'avons pas d'yeux physiques pour voir le monde invisible. Comme tu avais donné à Adam et
Ève.
Nous marchons par la foi. Mais ta parole nous révèle tellement de choses extraordinaires. Sur le monde invisible. Je te remercie. Merci de parler à ce peuple encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer sur le monde invisible. Et nous sommes en train d'étudier tout ce qu'il y a que nous ne voyons pas. Et qui pourtant est plus réel. Ce monde invisible est plus réel que le monde que tu vois avec tes yeux. Parce que c'est à partir du monde invisible que le monde visible a été créé. Et vous devez être plus conscient du monde invisible que ce que vous voyez avec vos propres yeux. Parce que Jésus dira que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Par contre, le royaume de Dieu, c'est le royaume qui va diriger l'univers entier. Et le jour où tu es né de nouveau, tu es rentré dans ce royaume. C'est un royaume qui est invisible. Mais c'est le règne de Dieu. Et notre Dieu viendra établir son règne pour l'éternité. Lorsque Daniel a eu une vision, la vision de la statue, il a eu l'explication. Et Dieu lui a montré quatre empires. Et ensuite une petite pierre qui venait frapper cette statue et qui a fait écrouler cette statue. Et cette petite pierre, nous dit la parole de Dieu, est devenue une montagne qui s'est répandue dans le monde entier. Et là, il a eu l'explication que cette petite pierre a fait naître un royaume éternel qui règnera pour l'éternité. C'est pour cela que tu dois avoir conscience. Tu dois connaître ce qu'il y a dans le monde invisible. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons vu
que Dieu est au troisième ciel, et nous avons défini ces trois cieux. Que dans le, autour du trône de Dieu, il y a plein de choses. Le troisième ciel, bien sûr, habite le trône de Dieu. Mais il y a aussi des créatures. Nous avons vu les séraphins, les chérubins. Nous avons vu ces créatures angéliques de très très haut rang qui gardent l'intégrité du trône de Dieu et de la gloire de Dieu. Et puis nous nous sommes posé les questions, qu'est-ce qu'il y a autour? Nous avons étudié les visions de l'Ancien Testament. Nous avons étudié les visions du Nouveau Testament. Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y a des gens autour du trône de Dieu. Et ce sont tous ceux qui meurent en Christ, qui sont là. Parce que le jour où tu vas quitter ton corps, ton esprit et ton âme vont partir. Et si tu es né de nouveau, tu vas aller dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et tu verras ces choses que nous avons décrites ici au travers de la parole. Tu les verras car tu verras Dieu face à face. Le jour où tu es né de nouveau, tu n'as pas pu voir Dieu face à face parce que ton corps est corruptible. Donc Dieu t'a réservé là-haut une demeure, nous l'avons vu. Nous avons vu qu'autour du trône de Dieu il y a 24 anciens. Et nous avons vu que ces 24 anciens sont entre autres les 12 moins 1 parce que Judas ne fait pas de la partie, Et on a vu que Paul a certainement remplacé Judas. Ensuite nous nous sommes posé les questions, les 12 autres trônes sont occupés par qui?
Eh
bien certainement par 12 héros de l'Ancien Testament. Et nous avons vu aussi qu'il y a une grande ville, la Jérusalem céleste. Nous avons vu que là il y a des grandes demeures, là où nous avons notre grande demeure que Jésus nous a préparée. C'est pour ça que Paul dira, la mort est un gain pour moi. Je suis pressé des deux côtés, il dira. D'être avec Christ, ce qui est de meilleur. Mais à cause de vous, je préfère rester dans mon corps. Parce que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais elle est dans l'éternité avec Dieu. Mais encore faut-il savoir. Et quand vous témoignez de Jésus, alors que tu diras, moi, tu sais, je sais où je vais, où je meurs, quand je vais mourir. Et les gens vont te dire, ah oui, tu iras où? Oui, tu vas aller au ciel. D'accord, mais il faut décrire ce qu'est le ciel. C'est une espérance vivante dans nos cœurs. Et la parole de Dieu met quelque chose en toi pour que tu comprennes et que tu sois capable de dire à tous ceux qui sont perdus, il y a un endroit merveilleux, un endroit extraordinaire. Et ce Jésus que je te prêche, il veut t'y amener. Car Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève et qu'il leur a dit multipliez-vous, remplissez la terre, régnez, dominez, Dieu n'avait pas créé l'enfer à ce moment-là. Dieu a dû créer l'enfer quand l'homme a chuté. C'est là où Dieu a dû créer l'enfer, parce qu'il savait qu'il y aurait des êtres humains qui ne marcheraient pas avec lui et qu'il faudra qu'ils aillent en enfer. Nous étudierons cette partie où vont les hommes qui ne croient pas en Jésus. Là nous en étions dans les anges et nous avons vu qu'autour du trône de Dieu la Bible est claire, elle nous montre les anges. Il y a une multitude d'anges. Nous avons vu ça entre autres, il y a plusieurs passages qui nous en parlent, mais entre autres dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Quand Dieu nous dit que nous nous approchons de sa présence, alors que nous l'adorons, Dieu nous montre que nous nous approchons de quelque chose.
Parce
que la Bible nous dit de nous approcher de Dieu, il s'approchera de nous. Hébreux chapitre 12, au verset 22 et verset suivant, la Bible nous fait un résumé de ce qu'il y a dans le ciel. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Verset suivant, verset 23, s'il vous plaît. De l'assemblée des premiers-nés, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, inscrits dans les cieux, c'est-à-dire au troisième ciel, du juste juge qui est Dieu, le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection.
N'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'impuhe muz'abagororotsi batunganijwe gose.
Dieu nous révèle clairement.
Imana iratwereka neza.
Dans sa parole qu'il y a une multitude d'anges.
Mu ijambo ryayo yuko hari isinzi ry'abamarayika.
Et nous avons commencé à voir ce qu'étaient ces anges.
Twaratangiye kuraba icyo ari cyo abo bamarayika.
Nous avons marqué que le mot ange vient du mot grec angelos.
Twarabonye ko iryo jambo ange cyangwa abamarayika riva mu kigiriki angelos.
Et qui veut dire messager.
Risobanura ngo umuntazanye ubutumwa.
Quelqu'un qui va porter une nouvelle.
Umutumwa intumwa umunazanye
ubutumwa. Donc qui est envoyé et qui porte une nouvelle.
Umunazanye inkuru.
Ensuite, nous avons remarqué dans chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux que ce sont des esprits.
Twarabonye rero yuko ari impuhe mu Baheburayo igice cya mbere.
Et qu'ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut.
Kandi ko bari mu gikorwa cyo gufasha abatezwa kuzoragwa agakiza.
Et ceux qui doivent hériter du salut, c'est qui?
Abakwiye kuragwa agakiza ni bande?
C'est vous et moi.
Ni wewe nanje.
Et c'est tous ceux qui un jour
kandi nabo bose umunsi umwe
diront oui à Jésus.
Bazokwemera ibya Yesu.
Dans le salut d'une personne.
Mu gakiza k'umuntu.
Il est clair que les anges sont impliqués.
Biratomoye ko abamarayika bafisemo igikorwa.
Quand quelqu'un va venir à Christ.
Iyo umuntu agomba kuza kuri Kristo.
Il y a un certain nombre de choses à propos des anges.
Kugira ngo aze kuri Kristo hari ibintu abamarayika bakora.
Ils vont mettre certains jalons. Ou certaines protections. Certains d'entre vous, vous avez les témoignages suivants. Vous vous êtes demandé pourquoi, dans cette occasion-là, de choses que vous aviez vécues avant d'être sauvés, vous n'êtes pas mort. Certains d'entre vous, dans vos témoignages, vous avez le témoignage suivant en disant, mais ce jour-là, je ne sais pas comment j'ai échappé à la mort.
Mais
moi, je vais te dire une chose. Les anges avaient été envoyés ce jour-là parce qu'ils savaient qu'un jour, tu dirais oui à Jésus. Et il y avait certainement des personnes. Il y avait certainement des personnes qui ont prié pour toi. Qui ont même intercédé pour toi. La prière d'intercession étant une prière qui permet justement d'éviter des jugements ou des catastrophes, des morts prématurées et souvent même vis-à-vis des inconvertis. Quand nous prions et la Bible ne nous révèle pas tout, frères et sœurs, donc il ne faut pas créer une doctrine que la Bible n'enseigne pas. Mais il est clair que la Bible nous dit qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous ne connaissons pas exactement le rôle des anges sur la terre, mais ils bougent. Ils font des choses surnaturelles. Nous en aurons une pleine révélation lorsque nous serons au ciel. La Bible nous révèle qu'un certain nombre de choses. Nous savons qu'ils ont un rôle au ciel. C'est très clair, autour du trône de Dieu. Nous avons vu qu'il y a des anges, mais il y a aussi des archanges. Que Dieu, dans sa parole, a un nom qui lui est attribué.
Yahweh Sabaoth,
qui veut dire l'éternel des armées. Et je vous ai montré que ceci est relaté à l'armée des anges. Et le terme armée est très bien traduit, c'est vraiment un terme militaire qui est utilisé à ce moment-là dans dans Sabaoth.
Kandi bavuze ingabo ni ingabo nyene n'igisirikare aha bavuga Sabaoth n'igisirikare.
Et Dieu étant un Dieu d'ordre.
Imana ni Imana y'urutonde.
Il a hiérarchisé les anges.
Il a fait ce qu'on lui a sombanishi jibintu.
Nous n'avons pas beaucoup plus de révélations sur ce mystère.
Ntabindi byinshi duhishurwa kuri ico.
Mais nous devons le savoir.
Ariko dukwiye kubimenya.
C'est pourquoi je suis vraiment fatigué des gens qui sont tout le temps en train de parler des démons.
Nico gituma ndambiwe n'abantu bama bavuga amadaimon umwanya wose.
Parce que sur cette terre,
kuko kuri ino si,
il y a beaucoup d'activités angéliques.
Hari igikorwa gikomeye cy'abamarayika.
Et ça vient avec notre foi. Dieu agit au travers de notre foi. Dieu agit au travers des prières de son peuple. Maintenant, tu ne connais pas tous les mécanismes que Dieu utilise. On ne les sait pas. Dieu nous dit de nous focaliser sur le résultat. Dieu ne nous dit pas de prier et de lui dire comment on doit faire, il doit faire les choses. Dieu a une armée d'anges à sa disposition pour intervenir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Comment il fait? J'en sais rien. La Bible ne nous le révèle pas. Par contre, la Bible nous révèle des choses à propos des anges. Nous avons aussi vu que les anges ont des noms. Et nous avons découvert que ces anges qui ont des noms ont aussi des rôles. Nous avons découvert qu'il y avait Gabriel qui voulait dire héros de Dieu. Nous avons vu aussi Michael qui est semblable à Dieu. Et ces deux anges qu'on revoit, dont un qu'on revoit dans l'Ancien et le Nouveau Testament,
Gabriel,
qui va faire une annonce entre autres à Marie et aussi à Elisabeth. Donc on voit que ces anges ont un rôle. Ils ont des noms, la Bible nous révèle deux noms, mais un troisième aussi. Nous allons voir cela dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Et je vais vous en parler ici. Et on va voir un nom d'ange destructeur. Parce que l'Apocalypse va nous révéler que les anges vont avoir un rôle prédominant dans la tribulation. Lorsque Jésus va venir enlever son église, l'horloge prophétique pour Israël va redémarrer et il va y avoir la dernière semaine d'année de Daniel qui va s'accomplir, c'est-à-dire 7 ans. Et c'est ce qu'on appelle la tribulation. Et si vous voulez voir ce qui va se passer dans la tribulation, sachant que vous devez avoir en tête que ça va être déclenché au moment où Jésus va venir enlever son église,
et
bien vous commencez à lire à partir de l'Apocalypse chapitre 5 et verset suivant. Donc littéralement au début de l'Apocalypse chapitre 6, et bien il va y avoir des anges puissants qui vont avoir un rôle de jugement sur la terre. C'est là où vous allez voir que Dieu envoie ses anges. Et il va y avoir les fameux 7 sceaux, c'est-à-dire 7 choses qui vont être scellées, 7 jugements, que Dieu va envoyer sur la terre pour juger les hommes. Il va y avoir une confrontation gigantesque de puissance. L'église sera enlevée. Il ne va y avoir que des inconvertis. Et certains vont être tellement surpris par l'enlèvement de l'église qu'ils vont dire, mais ces chrétiens avaient raison. Ils nous l'avaient dit, on s'est moqué d'eux, on n'a jamais voulu les écouter. Et là, ils vont chercher partout à savoir qu'est-ce qu'on avait prêché. Beaucoup de gens vont se convertir à ce moment-là, mais Dieu va envoyer ses jugements en même temps. Parce qu'il va y avoir cette confrontation de puissance satanique. Satan va vouloir absolument éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait que son temps est compté parce qu'il connaît aussi l'Écriture. Et à ce moment-là, les anges vont venir et frapper la terre, frapper les hommes avec les plus grandes catastrophes. Parce que Dieu dira, vous vous êtes moqué de moi. Je vous ai donné tant de temps pour ma grâce. Maintenant, le prix de la grâce, c'est le prix de la vie. Et les gens le sauront. Parce que vous savez, les inconvertis, des fois, j'écoute des inconvertis parler dans des informations, dans des shows, dans des talk shows, c'est-à-dire des gens qui sont interviewés. C'est étonnant de voir comment ces gens-là savent un certain nombre de choses sur les signes prophétiques de la Bible. Des fois, je suis choqué d'entendre des inconvertis. Savoir que Dieu a dit ça dans la Bible.
Ils
ne veulent pas écouter. Mais ils le savent. C'est étonnant de voir ça. Très étonnant de voir ça. Les inconvertis savent une certaine portion, certaines choses sur la Bible. Et croyez-moi, à ce moment-là, les anges de Dieu vont exercer des jugements. Et c'est pour ça que je voulais placer le contexte avant de lire ce passage, parce que vous savez, lire un passage biblique, le prendre comme ça, et dire, voilà ce que la Bible dit, c'est bien gentil, mais ça ne nous donne pas d'intelligence divine. Ce qui nous donne de l'intelligence divine, c'est de comprendre le contexte. Donc ici, il est dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et en fait, ça veut dire destructeur. Ce nom-là veut dire destructeur. Il y a des anges. Et là, nous parlons des anges de Dieu, ce n'est pas un démon, ça. C'est un ange de Dieu qui va exercer un jugement divin sur la terre. Comme Dieu a exercé ses jugements dans les 10 plaies d'Égypte. Dans les 10 plaies d'Égypte, c'était pas des démons, non. C'était des anges qui venaient frapper les hommes. Par rapport à quelque chose de particulier. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, Dieu ne vient pas frapper les hommes avec ses anges. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu a ouvert les portes. Toute personne qui veut se repentir peut se repentir. Il est vrai que parfois Dieu va faire certains miracles quand il y a des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur et qui ont une opposition satanique directe. La Bible nous donne quelques exemples. Mais ce sont des choses qui sont rares aujourd'hui sur des individus uniquement. Les 10 plaies d'Égypte étaient sur une nation. Et dans les temps de tribulation où Dieu enverra ses jugements par les anges, exécutés par ses anges,
eh
bien là, effectivement, ce sera aussi sur les nations. Là, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu n'exerce pas ses jugements sur des nations aujourd'hui. Alors, il y a différentes choses sur les anges. D'abord, il faut savoir que chacun de nous, nous avons un ange gardien. Dis à ton voisin, fais attention, tu as un ange gardien. Et la Bible va nous le montrer. Quand tu fais des bêtises, tu as un ange gardien aussi qui voit. Donc, fais attention. Alors, d'abord, la Bible va nous montrer 2 passages sur ce sujet. Pas 3, en fait, mais on va en étudier 2 parce qu'il y en a un qui vraiment est semblable. Et on va, donc, ces gens, dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, au verset 9 et 10, Jean va recevoir les choses les plus incroyables. L'Apocalypse est un livre passionnant. Je crois qu'un jour, je vais faire un commentaire dessus parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Je trouve ce livre vraiment très intéressant quand vous avez un minimum d'intelligence sur le monde de Dieu.
Mais
c'est une catastrophe pour les prédicateurs qui n'ont pas beaucoup d'intelligence sur le monde de Dieu et qui se permettent de commenter l'Apocalypse. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires sur l'Apocalypse qui vraiment disent n'importe quoi. Et souvent parce que les gens n'ont pas une intelligence sur le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont pris l'Apocalypse et qui ont fichu la trouille aux chrétiens. Alors que l'Apocalypse est un livre de gloire. Un livre de révélation extraordinaire sur le monde invisible. Un livre qui nous montre la victoire finale de celui que nous servons. Et là où nous serons avec lui pour régner avec lui pour l'éternité. Un livre d'achèvement extraordinaire. Le point final de l'histoire de l'humanité écrit d'avance par Dieu.
Et
ça, je trouve ça extraordinaire. Dans ce livre, il y a des richesses merveilleuses. Et il dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. Verset suivant. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ah, Jean qui tombe à ses pieds pour adorer l'ange. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Regardez bien ici, ton compagnon de service.
Arambarira atoya sigaho ndumugura no mugenzawe.
Ton compagnon de service.
Ngo ndumugura no mugenzawe.
Tu as un compagnon de service.
Ngo urafise uwo mugendana.
Ne lui parle pas, tu n'as pas le droit de lui parler. Sauf s'il t'apparaît. Parce que là, il va te parler et toi, tu vas lui répondre.
Et
il y a des gens qui ont vraiment vu leur ange. Il y avait un serviteur de Dieu qui malheureusement a très mal fini, mais qui était un puissant homme de Dieu, qui était
William Branham,
un vrai prophète de Dieu, pas un prophète pili-pili, un homme qui a reçu des révélations les plus extraordinaires et qui portait des fruits absolument fabuleux. Et cet homme, souvent, il disait que son ange lui apparaissait. Il lui disait des choses à propos de cas dans lesquels, envers lesquels il exerçait le ministère. Et c'était incroyable comment Dieu utilisait cet homme. Et ça peut arriver. Il y a des gens qui ont vu leur ange.
Ce n'est
pas courant. Et je vous rappelle que vous n'avez aucune base scripturaire, ne faites pas des jeûnes et prières en disant « Seigneur, montre-moi mon ange gardien ». Vous n'avez pas une base scripturaire pour prier comme ça. Ne le faites jamais. À chaque fois que des gens ont eu des apparitions d'anges, ils ne le désiraient pas spécialement, c'est arrivé. Donc n'essayez pas de prier ce genre de truc. Ça peut être extrêmement dangereux. Ne priez pas des choses qui sortent de l'Écriture. Si un jour ça se passe pour l'un d'entre vous, dites merci Seigneur et c'est tout. Et témoignez de ce que vous avez vu. Mais si vous venez témoigner que vous avez vu un ange avec des ailes, vous savez ce que ça veut dire. Je
vous
l'ai expliqué la dernière fois. Les anges n'ont pas d'ailes, ni les archanges. Les seuls qui ont des ailes, ce sont les chérubins et les séraphins. Et pour les voir, il faut que vous alliez là-haut.
Et
vous ayez une vision de ce qu'on appelle être ravi en esprit. Nous avons expliqué cela déjà auparavant, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ici c'est clair, l'ange qui accompagne Jean au ciel lui dit, je suis ton compagnon de service. Dans Matthieu 18, verset 10, Jésus va faire aussi une déclaration qui confirme cela. Nous avons un ange, frères et sœurs. Chacun d'entre nous, nous avons un ange. Et Jésus dit, mais gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quand Jésus utilise cette expression, Il parle de la future église, ceux qui vont naître de nouveau et qui sont souvent méprisés par le monde. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit régulièrement la face de mon Père qui est dans les cieux. Steve, tu sais que tu as un ange gardien?
Yo, David. Merci de me le rappeler.
Amen.
Je l'oublie parfois.
C'est la parole, oui, tu l'oublies parfois. Nous l'oublions souvent,
d'ailleurs.
Nous avons des anges pour nous protéger, frères et sœurs. Les anges sont des messagers envoyés de Dieu qui nous protègent, qui mettent des choses autour de nous dans l'action divine.
Vous
voyez, quand vous commencez à croire, avec la, donc avoir la foi dans votre cœur, vous parlez des choses de Dieu. Il y a le monde spirituel de Dieu qui intervient en votre faveur. Et il y a des anges qui sont en action. Mais je vous le dis, nous n'avons pas toutes les révélations là-dessus.
Donc,
ne soyez pas superstitieux. Parce que je vous le dis et je vous le répète, ça peut être très dangereux. Quand j'enseigne sur le monde invisible, je veux que vous gardiez l'équilibre de la parole. Parce que les prédicateurs ont tendance très souvent à prendre une partie de l'écriture et à raconter beaucoup de choses aussi. En plus, la Bible ne nous dit rien d'autre. Nous avons un ange gardien, c'est tout ce que nous savons. Il y a aussi une autre chose que la Bible va nous montrer qui est très claire. Nous allons retrouver ça dans Luc. Luc chapitre 16. Le rôle des anges. Le rôle des anges dans le ciel, nous avons vu de louer, d'adorer Dieu, de protéger le ciel. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de démon ou le diable n'a pas accès non plus au ciel, au troisième ciel. Le troisième ciel est un endroit exclusivement réservé à la gloire de Dieu et au racheté du Tout-Puissant. Il n'y a pas de démon qui se balade aussi au troisième ciel. Ne croyez jamais ces choses-là.
Et
je sais qu'il y a des gens qui prennent le texte de Job en disant que Satan s'est présenté devant Dieu. Mais la Bible ne nous dit absolument pas que cette scène s'est passée dans le ciel. Faisons très attention au troisième ciel. Là où il y a le trône de Dieu. Non, Dieu garde le paradis, la Jérusalem céleste. Et il met à l'écart tous ceux qui pourraient venir y faire quoi que ce soit. Si vous lisez la vision de l'Apocalypse, où Jean donc, nous rapporte tout ce qu'il a vu au troisième ciel, vous ne verrez pas la description d'un seul démon au ciel. Il n'y a pas de démon au ciel. J'aimerais que ces croyances tombent chez beaucoup d'entre vous. Parce que trop de gens croient ces choses-là. Et ce n'est pas scripturaire. Il n'y a pas de démon au troisième ciel. Dis à ton voisin, il n'y a pas de démon au troisième ciel. Il
n'y
a que la gloire de Dieu.
Amen. Amen.
Soyons bien clairs. Dans Luc chapitre 16, Jésus va nous donner une parabole. Du riche et du pauvre Lazare. Là aussi, c'est une parabole. Donc, faisons attention quand nous lisons une parabole. Parce que là aussi, il y a des règles d'interprétation quand vous lisez la parole. Une parabole va montrer certaines choses, certaines vérités. Mais vous ne pouvez pas prendre une parabole et mettre tous les détails et les interpréter ce qu'on appelle littéralement. Par contre, une chose qui est sûre ici, c'est que la Bible va nous parler d'un ange. Regardons ensemble, il y avait un homme riche, verset 19, vêtu de pourpre, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. L'autre aurait désiré de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, regardez bien, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli.
Guhabaye mutunzi ku murongo w'19 yambara impunzu z'inyambara abami nizera nziza yama adibamye mu byiza iminsi yose kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku irembo ryiwe yatonyanga ibisebe yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'ameza y'uno mutunzi kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe.
Donc il est clair dans cette parabole, Jésus nous montre. Évidemment, ici, ce n'est pas la richesse naturelle et la pauvreté naturelle en argent. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les riches iraient auprès du Seigneur. Là, ce n'était pas encore auprès du Seigneur, je vais vous en donner quelques mots. Et tous les pauvres iraient en enfer. Tous les riches iraient en enfer et tous les pauvres iraient auprès du Seigneur. Ça, c'est être riche pour Dieu ou être pauvre pour Dieu. Et là, l'image du pauvre, bien sûr, c'est celui qui est riche pour Dieu. C'est-à-dire que le monde méprise ça. Et là, l'image du riche, c'est celui qui veut vivre sa propre vie pour lui-même sans Dieu. Ça n'a rien à voir avec les richesses naturelles. Parce que je vous rappelle que Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu a toujours fait prospérer tous ceux qui ont marché avec lui et qui ont eu une mentalité divine. Abraham marchait avec Dieu et Dieu l'a béni et il fut immensément riche. C'est juste un exemple parmi tant d'autres dans la parole de Dieu. Je tenais à faire cette précision pour certains qui ont encore des mentalités religieuses. Ici, le pauvre, entre guillemets, le pauvre pour le monde, mais le riche pour Dieu, va être pris par les anges. Il y a un silence qui est dit pour celui qui va descendre en enfer. On
ne
dit rien du tout. Par contre, on dit clairement que celui qui va marcher avec Dieu
va être
pris par son ange
et
porté. Là, ici, bien sûr, on parle du sein d'Abraham. C'était une image pour l'Ancien Testament.
Et
nous parlerons où vont les morts. On va en parler. On va parler du monde aussi invisible, de ceux qui vont en enfer. On parlera aussi du sein d'Abraham, donc des gens qui croyaient avant la résurrection de Jésus. Et je détruirai ce terrible mensonge de la sorcellerie. Un des plus gros mensonges de la sorcellerie. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole qu'il était interdit d'invoquer l'esprit des morts. Dieu contrôle parfaitement là où va une personne. Qu'elle soit sauvée ou non sauvée. Les esprits humains ne se baladent pas dans l'univers. Et on ne peut pas les faire revenir ou les faire sortir ou les faire descendre du troisième ciel. Ou même les faire sortir de l'enfer. Nous en parlerons. Dieu contrôle parfaitement les esprits humains qui ne sont plus dans leur corps. Donc c'est pour ça que Dieu a interdit l'invocation des esprits des morts. Et que c'est un grave péché devant Dieu.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas l'esprit du mort qui va venir. Ce sont des esprits sataniques qui vont se faire passer pour le mort. Nous expliquons cela dans les cours suivants. Donc nous voyons que d'une part nous avons un ange gardien. D'autre part, ces anges aussi viennent nous amener. Et il nous amène au ciel, nous qui sommes sauvés, bien évidemment. Donc le jour où tu quitteras ton corps avec une escorte. Ce ne seront pas avec des militaires humains, si tu as une escorte déjà, ce sera avec les anges. Pour nous escorter jusqu'au ciel. Et quand tu vas arriver au ciel, tu vas te prosterner devant ton roi. Et tu verras tout ce que nous avons découvert ici. Tout ce que la Bible dit à propos de ça. Mais nous serons sous bonne escorte pour aller au ciel. C'est un jour glorieux, frères et sœurs. La mort physique est un jour glorieux pour un chrétien. C'est une tristesse pour ceux qui restent ici. Surtout quand c'est quelqu'un qui était très proche.
Et
c'est normal parce que la personne ne sera plus là vivante à côté de toi dans son corps. Mais la Bible est claire. Pour nous, c'est un gain d'aller là-haut. Bien sûr, il faut accomplir sa course. Moi, j'accomplirai ma course jusqu'à 95 ans. C'est déjà décidé, c'est là où j'ai ma foi. Vous me supporterez jusqu'à 95 ans. Certains, vous serez déjà là-haut. D'autres, vous serez encore là et on se saluera. Et tu me diras, ah, pasteur, tu approches les 95. Et ce jour-là, je quitterai mon corps pour aller auprès du Seigneur. Parce que je sais ce que j'ai à faire ici encore. Je sais ce que j'ai à faire ici. C'est pour ça que je le confesse. J'en ai encore 45 à aller. Et ces 45, je tiens à les utiliser. Et j'y pense régulièrement. Pour les utiliser pour la productivité du royaume. Mais la mort est un gain. Ce jour-là, nous serons escortés par les anges pour aller rencontrer notre Dieu. Ça c'est glorieux, frères et sœurs. Ça c'est glorieux. C'est un jour merveilleux. Normalement, la mort physique devrait être quelque chose de simple pour les chrétiens. Tu devrais aller jusqu'au bout de ta course, jusqu'à un âge avancé, parce que je vous le rappelle, je vous avais fait deux enseignements là-dessus. Où la Bible nous promet une longue vie sur la terre. Ton ange est là pour te protéger pour ça. Mais fais attention aussi, tu dois savoir te gérer. Tu dois savoir gérer ta vie spirituelle. Tu dois savoir rester jeune à l'intérieur. Et aussi ne pas vieillir trop vite avec ton corps. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu manges. Ça pourrait écourter ta vie.
Eh
oui! Je vous rappelle que nous ne sommes plus propriétaires de nos vies, nous sommes gestionnaires.
Si, fais
un sourire devant ces vérités quand même. Fais un beau sourire devant ces vérités. Fais un beau sourire devant toutes ces vérités. Tu deviens trop sérieux là. Nous sommes gestionnaires de notre corps. Et parfois il y a des gens qui, parce qu'ils gèrent mal leur corps, partent plus tôt. Dieu ne t'appelle pas à partir plus tôt. Mais tu as une responsabilité. Sur le temps que tu passeras sur cette terre. Sache que le reste c'est sécurisé. C'est ça qui est bien, c'est pas une assurance naturelle que nous avons. C'est une assurance sur l'éternité. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est que Dieu ne fait pas les choses comme les hommes font. Il nous a sécurisé notre éternité.
Et
encore faut-il que tu aies vraiment la révélation sur cette éternité. Quand tu parles de vie éternelle, il y a tout ce monde invisible qui est là, dont tu parles, que Dieu a en réserve pour toi. Tu verras ces choses et tu glorifieras ton Dieu pour l'éternité. Jésus nous a rachetés, ce n'est pas pour rien. C'est absolument extraordinaire. Je vous rappelle aussi dans l'Apocalypse que la Bible nous dit,
et
j'aimerais réinsister là-dessus, au début du livre de l'Apocalypse, la Bible nous parle du message aux sept églises. Et là aussi, au-dessus des vraies œuvres de Dieu,
by'Imana by'ukuri.
Il y a un ange qui veille sur chaque œuvre de Dieu. C'est pour ça, ne faites jamais un Ismaël. Faire un Ismaël, c'est dire j'ai envie de faire ça pour Dieu. Ou même Dieu a pu te parler. Mais tu es là et tu fais les choses comme toi tu veux les faire. Dieu n'enverra pas son ange. La Bible nous dit à chaque fois qu'il va parler des églises. Verset 1, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1, Apocalypse 2, 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 8, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, verset
8.
Verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame.
Verset
18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Chapitre 5, verset 1, c'est la cinquième église, écrit à l'ange de l'église de Sardes. 3, 1. Verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de
Laodicée.
Et s'il avait écrit aujourd'hui, il aurait peut-être écrit à l'ange de l'église d'El Shaddai. Amen.
Amen.
Quand il y a l'œuvre de Dieu, il y a un ange.
Quand
il y a un Ismaël qui est né, c'est-à-dire quelque chose qui est né selon la volonté de l'homme, ou quelqu'un qui est entré trop vite dans un appel, il n'y a pas d'ange. Et lorsque les tempêtes arrivent ou les problèmes arrivent, c'est comme ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 3. Celui qui a construit avec de la paille, avec du foin, avec du
chaume.
Lorsque on y met le feu, il ne reste plus rien. C'est pour ça que quand nous construisons des choses pour Dieu, que ce soit vraiment Dieu qui nous donne de construire ces choses, et là il enverra ses anges. Et d'après ce qu'on peut comprendre dans la parole, chaque église locale qui a été plantée par Dieu a un ange au-dessus d'elle qui protège cette église, qui amène un certain nombre de choses dans cette église. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas fabriquer par l'intelligence humaine, par des bons désirs, par des prières forcées. Soit ça vient de Dieu, soit ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, alors Dieu enverra son ange et cet ange aura un certain nombre de rôles à faire. Nous ne savons pas exactement, mais la Bible est claire. Il y a un ange sur chaque œuvre de Dieu. Alors maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre à propos des anges. La Bible va nous parler du rôle des anges en tant que messagers, mais la Bible va nous montrer aussi que les anges sont limités. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 12 quelque chose de très intéressant sur les anges. 1 Pierre 1 12, il est dit, on va lire juste un peu plus haut, verset 11, même un peu plus haut encore, on va regarder. Voilà. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée. Là, on parle des prophètes de l'Ancien Testament. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, c'est pas en eux littéralement dans le grec, qui était sur eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
Verset yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyihe.
Ici, la Bible nous parle de ces prophètes de l'Ancien Testament, entre autres
Ésaïe,
et d'autres prophètes qui ont reçu des révélations qui touchaient la grâce de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont prophétisé et qui ont donné ce qu'on appelle des prophéties messianiques. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez trouver des prophéties qui concernent, par exemple, le peuple d'Israël directement. Des situations des nations alentour à Israël, autour d'Israël. Toutes sortes de prophéties qui vont concerner un futur proche. Mais aussi, vous allez découvrir des prophéties qui prophétisait la venue de Jésus et le sacrifice de Jésus. C'est ce qu'on appelle les prophéties messianiques.
Mais
par exemple, Ésaïe 53, que nous connaissons tous, j'espère en tout cas, qui nous parle des souffrances du Messie, où
Ésaïe,
700 ans avant Jésus, avait reçu ses révélations. Quand il recevait ces prophéties messianiques, ils étaient complètement troublés par rapport à ça. Et la Bible nous dit qu'ils étaient là en train de faire, ils en faisaient l'objet de leur recherche. Ils sondaient les époques, ils disaient, ça va se passer quand? Est-ce que c'est pour notre époque? Est-ce que c'est dans les prochaines années que ça va se passer? Est-ce qu'on va le voir nous-mêmes avec nos propres yeux? Donc ils sondaient les époques, nous dit la parole de Dieu, et les temps. Mais que ce n'était pas pour eux, ça leur a été révélé. Ce n'était pas pour eux. Et on va arriver au verset 12, donc, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous, c'est-à-dire pour nous. Pour le corps de Christ. Qu'ils étaient les dispensateurs, c'est-à-dire que c'était eux qui donnaient ces choses, de ces choses que vous ont annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et regardez bien le morceau de phrase ici, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Ngo kandi bahishurirwa yuko atari bo babyikorera ariko ngo ko ari mwebwe babikorera nibyo none mumaze kubarigwa nababwiye ubutumwa bwiza nabababwiye ubutumwa bwiza bavugishijwe na mpwe muyera yatumwe ava mu ijuru kandi byo abamarayika bipfuza kubirunguruka.
Donc on voit que les anges ont une mission limitée.
Turabona rero ko abamarayika bafise igikorwa gifise
intervention envers ceux qui doivent hériter du salut.
Kubijanye n'agakiza k'abantu barafise aho bagaruka.
Mais là on sent qu'il y a des interventions, ils plongent leur regard, c'est-à-dire qu'ils interviennent. À propos justement de l'évangile. Mais une chose qu'on va remarquer qui est très importante à propos des anges, c'est que les anges n'ont pas pour mission de prêcher l'évangile. On en a un bel exemple dans Actes chapitre 10. Avec l'histoire de Corneille, et nous allons clôturer par cela aujourd'hui. Dans l'histoire de Corneille était un païen, un officier romain, armé d'occupation d'Israël. Je vous rappelle que dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, quand le Nouveau Testament était écrit, Israël était occupé par une armée, c'était les Romains. En fait, Israël n'était ni plus ni moins, la Palestine était ni plus ni moins, eh bien, une colonie romaine. Et là, on voit que Corneille était un centenier, c'est-à-dire un homme qui était en charge d'un certain nombre de soldats. Et il est dit au verset 1, il y avait à Césarée, Acte 10, un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, c'est-à-dire que bon, il priait à sa façon, bien sûr, avec toute sa maison. Il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui, qui lui disait Corneille. Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille le cuir, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya vers Jaffa, la ville de Jaffa. Alors, juste après cela, Pierre lui va recevoir une vision. Donc on voit un ange d'abord qui apparaît à Corneille, un païen, et qui lui dit quelque chose, d'envoyer des gens dans la ville de Jaffa. Pierre, à ce même moment, si vous lisez la suite de cette histoire, va recevoir une vision, la vision d'une grande nappe avec des animaux dedans.
Petero aronukwerekwa abona ikintu cy'ikintu cy'ikirago kiriko ibintu hejuru.
Et dedans, il y a des animaux qui étaient purs selon la loi de Moïse et impurs selon la loi de Moïse.
Hari rero ibikoko hejuru kuri ico kintu abona ibikoko byagezwe bya Mose bavuga ko bitejejwe n'ibindi bavuga ko byejejwe.
Ce n'est pas que Dieu faisait de la ségrégation animale.
Imana ntiyatoranya ku butoni ibikoko.
Les différences entre les animaux. Mais en fait, ce qu'il voulait toujours avec son peuple d'Israël dans la loi, c'est dire il y a des choses pures, il y a des choses impures. Constamment, les Israélites vivaient dans un environnement où ils devaient faire la différence et ils avaient la loi devant eux en disant attention, il y a des choses qui plaisent à Dieu, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Et donc, il reçoit cette vision. Et il entend, il faut que tu tues et manges. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Pierre va dire, moi, j'ai jamais mangé un animal impur. Et Dieu lui dit, ce que Dieu a considéré pur, ne le considère pas comme impur. Et bien sûr, ici, il faut bien comprendre le contexte encore. Ça correspond à l'ouverture de la prédication pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Parce que les juifs n'avaient pas le droit d'aller dans la maison d'un païen. S'ils y allaient, ils étaient considérés comme impurs, souillés. Et quand ils sortaient de la maison d'un païen, ils devaient passer par une purification. Non pas parce que le païen était sale, le non-juif était sale, mais encore pour faire des différences. Pour pas que le peuple de Dieu qui n'était pas né de nouveau se fasse influencer par tout ce que les païens faisaient spirituellement, et la sorcellerie était partout dans ces
coins-là.
Donc Dieu voulait éviter que ce que ces païens faisaient vienne sur son peuple. Donc à chaque fois, il mettait une limite volontairement. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et le péché ne peut pas toucher la présence de Dieu. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va voir cette grande nappe. Donc il ne va pas comprendre au départ, il va réfléchir sur tout ça. Et le Saint-Esprit va lui dire, il y a des gens qui te cherchent. Tu vas les suivre. Et c'est là où dans Acte 10, Pierre, pour la toute première fois, va aller prêcher l'évangile dans la maison d'un païen à des païens. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'approche de l'ange. L'ange est envoyé par Dieu pour donner un message à Corneille. L'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. Parce que ce n'est pas le rôle des anges de prêcher l'évangile. C'est au rôle de l'Église de prêcher l'évangile. Ce n'est pas les anges qui prêcheront l'évangile. Ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur mandat. Par contre, c'est à nous, frères et sœurs, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Les anges peuvent être envoyés comme des messagers pour ceux qui vont hériter du salut. Mais les anges n'ont pas pour mission de prêcher l'évangile. C'est la mission que Dieu a donnée à son Église, que Jésus a laissé à la fin des évangiles. Aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, ça veut dire né de nouveau, sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne peut pas être sauvé. Il ira en enfer. Et il dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est notre rôle. Les anges plongent leur regard, c'est-à-dire vont intervenir. Alors que nous intercédons pour les inconvertis, alors que nous proclamons notre foi aussi dans notre vie, alors les anges vont intervenir. Mais comment, on ne sait pas. Mais ils sont là. Ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous servir selon ce que Dieu leur dit de faire, par rapport à notre foi, par rapport à nos prières. Nous allons tous fermer nos yeux, s'il vous plaît. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour le rôle des anges, Seigneur, dans nos vies, chose que nous connaissons peu, Seigneur. Merci pour les révélations que tu donnes dans ta parole. Nous voulons les comprendre. Nous voulons les recevoir. Nous voulons méditer sur ces choses. Mais nous voulons aussi rester dans l'équilibre, Seigneur. L'équilibre de ta parole. Père, je te remercie pour ton évangile. Ce glorieux évangile que tu nous as donné, Seigneur. Ce n'est pas aux anges de prêcher, Seigneur, ton évangile.
Mais
Seigneur, tu nous as donné ce privilège extraordinaire. Et nous voulons te dire merci pour cela.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.